Chapitre 5. Mademoiselle Irène. Je vous félicite, commissaire, dit le capitaine de gendarmerie en frisant sa moustache au moment où Croiserelle reparaissait dans le jardin. Vous avez fait preuve dans cette affaire d'un flair qu'on ne rencontre pas souvent. Avec un dérangement minimum, vous êtes arrivé à un résultat maximum. Je vous remercie, capitaine. Ne me remerciez pas. J'ai souvent vu vos collègues de Paris à l'œuvre. Ils font du zèle pour vous en imposer, ils sont toujours suspendus au téléphone, ils demandent des ordres, des autorisations, des confirmations, ils se servent de nous comme de domestiques. Apportez-moi un sandwich, apportez-moi une serviette. Ils dérangent l'identité judiciaire sans raison, ils se faufilent jusqu'à nos chefs, jusqu'au préfet. Enfin, ils font du volume pour des résultats insignifiants. Tandis qu'avec vous, tout est simple, tout est clair. Pas tellement, malheureusement, interrompit Croiserelle. Que voulez-vous dire? Je dis que tout n'est pas si clair que cela. Comment? On retrouve la victime, on arrête le coupable, que voulez-vous de plus? Beaucoup de choses. Le capitaine regarda le commissaire avec des yeux étonnés. C'était un homme d'une cinquantaine d'années, au poil roux, d'un aspect professionnellement sévère, mais consentait ne pas devoir négliger les parties fines. Comme la plupart des hommes qui tiennent à leur plaisir, il appréhendait plus que tout les complications, les histoires, en un mot, tout ce qui risquait de retarder le rendez-vous du soir. Dès le commencement de l'après-midi, il veillait à écarter ce qui était susceptible de prolonger, au-delà du temps réglementaire, ses fonctions officielles. Il était 2 heures. Personne n'avait déjeuné. La journée vraiment avait été mouvementée. Cela pouvait suffire comme cela. Oui, beaucoup de choses, répéta le commissaire. Je ne vous comprends pas. Vous me comprendrez plus tard. Pour le moment, il y a encore de nombreux points obscurs. Je ne vois pas lesquels. Croiserelle sourit. Est-ce que vous jouez aux échecs? Demanda-t-il. À la manille, mais pas aux échecs. Aux dames, alors? Ah, aux dames, c'est autre chose. Vous vous êtes sans doute déjà amusé à résoudre des problèmes? Oui. Vous avez constaté combien le problème qui vous avait demandé des heures de réflexion paraissait enfantin une fois résolu? Il en est de même pour toute affaire criminelle. On peut arriver à un résultat par 1000 moyens, ou, si vous voulez, en 4, 5, 6 coups. La difficulté est de n'employer que 3 coups. Les blancs jouent et gagnent. Pour le moment, nous avons joué, mais nous n'avons pas gagné. Nous avons cru que la solution la plus simple était la meilleure. Elle l'est toujours. Je suis de votre avis, mais souvent ce n'est pas celle que l'on croit. Dans ce cas, 9 personnes sur 10 seraient convaincues de la culpabilité du mari. Pourquoi? Parce qu'elles ne se sont pas donné la peine de réfléchir. Comment expliquez-vous, par exemple, capitaine, que le meurtrier de cette femme ait jugé utile d'enterrer sa victime complètement nue? Rien de plus normal. Au moment où il l'a tuée, elle était nue. Il n'allait pas la vêtir une fois morte. Comment se fait-il que la victime ne portait même pas d'alliance? Elle l'avait peut-être enlevée, à moins que ce ne soit le meurtrier qui ne l'ait enlevée, considérant qu'une alliance, au poids, peut toujours valoir 100 francs. N'avez-vous pas l'impression qu'une nudité aussi complète est voulue? Non. Vous ne serez jamais un fin limier, capitaine. Dans notre profession, il ne suffit pas, comme on l'a dit tant de fois, d'avoir un esprit logique, d'être capable de tirer des faits, des déductions savantes. Il faut également de l'intuition, du flair, une sorte de prescience des choses. Vous croyez vraiment? J'ai le sentiment très net que si on a retrouvé cette pauvre femme sans vêtements, sans bijoux, c'est qu'il y a une raison. Ce serait un hasard vraiment extraordinaire que cette femme ait été tuée juste au moment où elle n'avait pas même une chemise sur elle. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Vous allez comprendre. Ne trouvez-vous pas étrange que ce même homme qui appréhende à ce point de laisser sur le corps de celle qu'il a tuée le plus petit indice qui puisse un jour servir à l'identifier, l'enterre justement dans son propre jardin. Vous êtes trop compliqué à Paris. Allons déjeuner, cela vaudra mieux. Croiserelle n'insista pas. Vous avez raison, répondit-il. Allons déjeuner. Ou plutôt, allez-y, vous. J'ai encore quelques petites choses à faire. Dites simplement à un de vos hommes de rester là pour recevoir l'identité judiciaire si elle arrive avant notre retour. » Sur ces mots, le commissaire prit congé du capitaine. Il traversa la maison, gagna la rue de la Comète. Quelques curieux contemplaient encore la villa du crime. Il ne prit pas garde à eux. Un instant, il hésita, puis, au lieu de se diriger vers la place, il tourna à droite. À une trentaine de mètres, sur l'autre trottoir, se dressait une maisonnette de briques rouges. Il sonna. Personne ne répondant, il sonna de nouveau. Finalement, il perçut à travers la porte des pas. Une minute s'écoula pourtant avant qu'une femme, jeune et belle encore, marchant péniblement en s'aidant de deux cannes, vêtue d'une robe de chambre de cachemire, vint lui ouvrir. « Que voulez-vous, monsieur ? » demanda-t-elle en s'approchant le plus possible du commissaire pour tâcher de le reconnaître. Elle était presque aveugle. « Je viens, madame, vous demander quelques renseignements sur vos voisins, les Favrin. »«
La maison du crime ?»«
Oui, madame. »«
Mais, monsieur, je ne sais rien, je ne les connais pas. Depuis le terrible accident qui m'a mise dans l'état où vous me voyez, je ne sors plus, je ne vois plus personne. Mais si vous voulez vous donner la peine d'entrer, je m'efforcerai de vous aider dans la mesure de mes moyens. »
Un instant après, le commissaire pénétrait dans une pièce qui était peut-être la plus étrange qu'il eût jamais vue. Alors que, de l'extérieur, cette maison semblait le banal abri de petits rentiers sans histoire, l'intérieur faisait songer à un musée de province où l'on eût assemblé les étoffes, les fourrures, les bibelots les plus précieux. Dans l'entrée, émergeant d'un vase chinois posé sur un trépied de bois de santal, des immortelles mauves jetaient une note funèbre. L'histoire de Mademoiselle Irène, comme on l'appelait dans le quartier, était pourtant très simple. Elle était partie avec une troupe jouer la comédie en Indochine. Au cours d'un déplacement, l'automobile dans laquelle elle avait pris place était tombée dans un ravin. Elle avait été relevée mourante, les deux jambes cassées, le visage meurtri par des éclats de verre. À l'époque, les journaux avaient parlé de cet accident avec beaucoup de tristesse. Une fête fut même donnée à son profit. Mais cela n'avait été qu'au bout de 18 mois qu'elle avait pu rentrer en France. Son retour, après une si longue absence, passa presque inaperçu. Elle avait été oubliée. Ses plus chauds amis se lassèrent vite de lui venir en aide. Incapable de gagner sa vie, estropiée, elle était parvenue cependant à réaliser une petite somme d'argent avec laquelle elle acheta ce pavillon. Pour le meubler, elle fit venir des différents pays où son existence errante l'avait conduite, ce qu'elle avait acheté, ce qui lui avait été donné et qu'elle avait confié à des garde-meubles, à des amis. Aujourd'hui, ses achats faits par caprice, ses présents, ses mille inutilités formaient le cadre où s'écoulait une vie désormais sans joie. C'était ce contraste qui provoquait chez le visiteur cette impression bizarre qu'avait ressentie le policier. « Vous n'ignorez pas, madame, commença ce dernier, qu'un crime a été commis dans la maison qui fait presque face à la vôtre. »«
Je ne l'ignore pas, en effet. Dans la matinée, mon attention a été attirée par l'attroupement qui vient seulement de se disperser. Mon épicier, en passant prendre ma commande, m'a tout raconté. C'est horrible, n'est-ce pas ? Je voulais vous demander si, par hasard, vous n'aviez rien... »
Croiserelle s'interrompit. Le mot « vu » lui était venu aux lèvres. « Si vous n'avez rien entendu, si, par exemple, vous n'avez pas le souvenir du bruit d'une détonation dans la journée du 7 janvier. »«
Le 7 janvier, quel jour était-ce ? » ?»«
Un jeudi. » »«
J'ai en effet le souvenir d'avoir entendu le bruit, non pas d'une détonation, mais de deux. D'ailleurs, il me sera facile de me rappeler le jour exact, car je n'étais pas seule. » Une amie de Saïgon, venue à Paris pour les fêtes du jour de l'an, se trouvait justement avec moi. La dernière visite qu'elle m'a faite, elle était déjà venue me voir 2 jours avant, était la veille de son départ pour Marseille, et je me souviens très bien qu'elle embarquait le 11.
Elle est donc venue le 7 et le 9.
C'est cela, le jeudi ainsi que le samedi.
Mais est-ce le jeudi ou le samedi que vous avez entendu ces détonations ?
Cela, je suis incapable de le préciser.
Voyons, faites un effort de mémoire.
La pauvre femme porta la main à son front, réfléchit durant une minute. Finalement, elle dit
« Non, vraiment, je ne me souviens pas. Nous étions toutes les deux dans cette même pièce où nous nous trouvons en ce moment. Il faisait nuit. Il pouvait être 5 heures, pas plus tard, car les deux fois que mon amie est venue, elle est partie vers 5h30 afin de prendre le train de 6h10. Si vous y tenez, je peux lui écrire à ce sujet, mais nous n'aurons pas sa réponse avant 6 semaines. »
Faites encore un effort. De quoi parliez-vous au moment où on retentit ces détonations ?
Non, non, je ne me souviens pas. Elle a simplement dit « Tiens, tu habites un drôle de quartier. » Et j'ai répondu que c'était sans doute un moteur quelconque qui avait fait ce bruit. D'ailleurs, il est très possible que j'aie eu raison.
Malheureusement pas. Ce qui est ennuyeux, c'est que vous n'arriviez pas à vous souvenir du jour exact.
Le mieux est que j'écrive à mon ami, je crois.
Vraiment, en faisant un grand effort. Voulez-vous que je vous aide, que je vous pose des questions ?
Aviez-vous goûté, par exemple ?
Oui, nous avions goûté.
Vous n'aviez pas un gâteau particulier ?
Non, je regrette beaucoup, monsieur le commissaire, de ne pouvoir mieux vous renseigner, mais vous devez comprendre combien il est difficile, à 2 mois de distance, d'avoir la mémoire exacte d'un détail auquel on n'a accordé aucune importance sur le moment.
Oui, je comprends. Enfin, il y a un fait. Vous avez entendu, vous et votre ami, 2 détonations. Il reste à déterminer le jour. Nous savons déjà que c'était le jeudi 7 ou le samedi 9. Estimons-nous satisfaits. Sur ces mots, le commissaire prit congé. Évidemment, pensa-t-il en se dirigeant vers la ville. Si les coups de revolver ont été tirés le samedi 9 janvier, cela change tout. Ce jour-là, Favrin prétend qu'il était à Paris. Si les vérifications que nous allons faire nous montrent qu'il n'a pas menti, il faudra nous occuper d'Auguste Delaune, qui, de sa propre déclaration, se trouvait justement dans les parages de la demeure des Favrin. En arrivant sur la petite place où aboutit la rue de la Comète, il aperçut, montant la côte, une grosse voiture qu'il reconnut tout de suite pour être celle de l'identité judiciaire. Il lui fit un signe. 6 hommes l'occupaient. En se serrant, ils purent lui ménager une place. 1 minute après, l'automobile s'arrêtait devant la villa du crime. Cependant que le docteur Tourillon procédait à l'examen du corps, Croiserelle avait conduit les 2 inspecteurs dans le salon de la maison. « C'est ici, dit-il, que Madame Favrin a dû être abattue. Mon impression est que 2 balles de revolver ont été tirées et qu'une seule l'a atteinte. Nous verrons tout à l'heure, lorsque le médecin légiste donnera ses conclusions, si je me suis trompé. Quant à l'autre balle, elle est venue se perdre dans la fenêtre. Le carreau cassé a été remplacé, ainsi que vous pouvez vous en rendre compte. » Comme le crime a été commis vers 5 heures de l'après-midi, il faisait nuit et les volets étaient fermés. Je les ai examinés. L'un d'eux porte visiblement la trace d'une balle. Nous allons photographier la pièce, la fenêtre, ainsi que le volet en question, dit l'inspecteur Godard. Le commissaire laissa les inspecteurs, mais au lieu de retourner dans le jardin, il monta au 1er étage. Il entra dans la chambre à coucher, décidé à procéder à un examen plus attentif de cette pièce. Rien n'avait été touché. L'armoire était encore entr'ouverte, Croiserelle ne l'ayant pas complètement refermée lors de ses précédentes investigations. De nouveau, il passa sa main sous les piles de linge. Un rayon, cependant, était vide. Ce détail attira l'attention du commissaire. Il souleva machinalement le journal qui le recouvrait. Quelle ne fut pas sa surprise de voir que ce journal portait le titre de « Dépêche de Vichy et du Centre ». C'était un exemplaire de septembre 1927. En première page, une photographie retint les regards du policier. Elle représentait l'orchestre de l'hôtel de la Source, chaque musicien assis sur une chaise de jardin et tenant sur ses genoux son instrument. En dessous, un petit article signalait les mérites de cet orchestre. Le commissaire plia ce journal, le mit dans sa poche. En se rendant dans la chambre du petit disparu, il vit, sur le palier, une porte qu'il n'avait pas remarquée lors de sa visite du matin. Il l'ouvrit.
Elle donnait sur une sorte de cabinet de débarras, aménagé en garde-robe. Des costumes, des robes y étaient suspendus. Le commissaire les examina un à un. C'étaient des effets de confection, de qualité médiocre, sans grand intérêt. Soudain, il s'arrêta devant un chapeau pendu à un clou. C'était une toute petite toque de Breschwanz, dont la draperie était retenue sur le côté par une agrafe de diamants. « Tiens, tiens !» murmura Croiserelle. « Elle était élégante, cette pauvre Madame Favrin !» Il prit le chapeau, le regarda au jour. En lisant la griffe fixée à l'intérieur, il ne put retenir un cri d'étonnement. Cette toque venait de chez Catherine Leboux, la plus importante maison de mode de la rue de la Paix. Ce modèle de goût et d'élégance, perdu dans ce cabinet de débarras d'une maisonnette de banlieue, au milieu de vêtements de confection, de vieilles chaussures à 49 francs, de robes de cotonnade, de chapeaux achetés au déballage, c'était bien étrange. Jusqu'à ce jour, le commissaire n'avait jamais prêté une bien grande attention à la mode. Ce 8 mars 1932, il regretta vivement. Quand les femmes avaient-elles donc porté des toques semblables? En 1927, existait-il un rapport entre ce chapeau élégant et la feuille régionale trouvée dans l'armoire, cette feuille, en première page de laquelle un orchestre, depuis des années, demeurait pétrifié? Croiserelle n'eut pas le temps de méditer davantage sur la ravissante petite toque de Breschwanz. Des cris s'élevaient du jardin, on l'appelait. De l'examen auquel je me suis livré sur le cadavre découvert dans ce jardin, commença le docteur Tourillon, il résulte que le crime a été commis il y a environ 2 mois. La victime devait être âgée d'une trentaine d'années au plus. La conformation de son bassin permet d'affirmer qu'elle était mère. Quant à sa mort, elle est due à une blessure provoquée par une balle de 6 mm qui, pénétrant à la base de la nuque, est ressortie un peu au-dessus de l'oreille gauche. Au moment où elle a été assassinée, la victime n'était pas à jeun. Elle venait de prendre un très léger repas. Cette déclaration du médecin légiste avait été débitée sur le ton d'un professeur expliquant un problème à ses élèves. En parlant, pour donner plus de poids à ses paroles, il désignait du doigt la tête ou les pieds du cadavre allongé près de lui. À la longue, ce genre de spectacle avait complètement émoussé sa sensibilité. « Quelle taille pouvait avoir la victime ?» demanda le commissaire. « 1,60 m environ. C'était une petite nature. » « Je vous remercie, docteur. » Puis, comme s'il venait d'effectuer le travail le plus normal du monde, le médecin légiste, qui n'avait pas encore ôté ses gants de caoutchouc, demanda l'heure à Croiserelle, car, ajouta-t-il, j'ai l'intention de profiter de l'occasion et de pousser jusqu'à Versailles. Figurez-vous que j'ai peut-être été 10 fois dans ma vie à Versailles et que jamais je n'ai eu le temps de visiter le château. Il y a, paraît-il, un tableau de la bataille de Rocroi qui est une splendeur. « Un seul cadavre ne vous suffit donc pas ?» faillit demander le commissaire, mais la plaisanterie lui parut par trop macabre. « Il est 2h15 », se contenta-t-il de répondre. « Ce sera juste. En vous dépêchant, vous arriverez à temps, » poursuivit Croiserelle avec une pointe d'ironie que ne remarqua pas le docteur Tourillon. À ce moment, un des inspecteurs s'approcha du policier. « Une dame voudrait vous parler. » annonça-t-il sur le ton que prendrait l'ami d'un maréchal de France pour lui faire part du désir d'un soldat de 2e classe. « C'est bien, j'y vais. Où est cette dame ?»« Dehors, à la porte. » Le commissaire traversa le jardin, gravit les quelques marches qui conduisaient à la maison, se dirigea par le couloir vers l'entrée. Sous l'auvent, une femme en cheveux, chaussée de sabots, les épaules couvertes d'un châle de tricot noir, attendait en effet. « Entrez, madame. Ce vent qui souffle n'a rien de très agréable. »«
C'est peut-être inutile. J'ai juste un mot à vous dire. »«
Entrez tout de même. » La femme obéit, et alors qu'une dizaine d'hommes avaient circulé dans la maison sans songer une fois à s'essuyer les pieds, elle ôta avec précaution ses sabots qu'elle laissa à la porte afin de ne pas salir, et elle entra. Croiserelle la conduisit dans le salon. «
Quel est ce mot que vous aviez à me dire ?» demanda-t-il tout de suite.
« Voilà, monsieur, j'ai appris que Madame Favrin avait été assassinée, que le coupable était son mari, qu'il était même arrêté. J'ai appris également que vous, Je veux dire la police, était convaincue que le crime avait été commis le jeudi 7 janvier. Or, cela est impossible.
Pourquoi ?
Parce que dimanche 10 janvier, Madame Favrin était vivante. Je l'ai rencontrée ce jour-là.
Où ?
À la gare. Elle tenait son fils par la main. De l'autre, elle portait un paquet entouré de courroies.
Comment se fait-il, madame, que vous puissiez affirmer, à 2 mois de distance, que c'était le 10 janvier plutôt que le 3 ou le 17 que vous avez rencontré cette femme ?
Oh, c'est bien simple, monsieur. Je suis mercière. Vous ne me connaissez pas. Je me nomme Madame Gilbert. Il y avait déjà plusieurs semaines que Madame Favrin, chaque fois qu'elle venait de faire un petit achat, me promettait de régler une facture de 425 francs qu'elle me devait.
Que lui aviez-vous donc vendu ?
17 kilos de laine picarde à 25 francs le kilo pour un matelas. À la fin de l'année dernière, je m'étais présenté ici avec ma facture acquittée, comptant sur sa promesse. Je l'entends encore me dire « Écoutez, Madame Gilbert, nous avons eu beaucoup de dépenses à cause des fêtes, mais je vous donne ma parole que je vous paierai samedi prochain. » Elle faisait allusion au samedi 9 janvier. Je l'attendis en vain toute la journée. Le lendemain, je devais me rendre à Bellevue. Ma fille, qui, jusqu'alors, habitait un appartement sans la moindre miette de soleil, ayant loué une charmante villa et désirant que je vinsse la conseiller par le choix des papiers tentures. Je me trouvais donc à la gare de Viroflay à 8 heures. À 7 heures matinale, un dimanche, il n'y avait presque personne sur le quai. Ce fut à ce moment que je vis arriver Madame Favrin. Ma première pensée fut qu'elle quittait Viroflay pour toujours et que ma facture allait rester impayée. Je m'approchai d'elle. À ce moment, un porteur de la gare lui remit un bulletin, ce qui me confirma dans cette impression. « Vous partez ? » lui demandai-je. À ma vue, elle parut gênée. « Oui, me répondit-elle, je pars pour quelques jours, mais j'ai dit à mon mari de passer vous payer. »« Ce n'est pas gentil ce que vous faites, lui ai-je même fait observer. Avant de prendre des vacances, vous devriez vous acquitter de vos dettes. » À ce moment, le train est arrivé et nous nous sommes quittés.
« Vous êtes certaine que ce n'est pas le dimanche 3 janvier ?»«
Absolument certaine. Monsieur Favrin est même venu le lendemain régler la facture. » Pour plus de sûreté, avant de venir vous voir, j'ai consulté mes livres. Le 11 janvier, la facture de 425 francs a été payée.
Est-ce que Favrin, ce jour-là, ne s'est pas plaint du départ de sa femme ?
Non.
Lui avez-vous dit que vous l'aviez rencontrée la veille ?
Oui, il m'a répondu qu'elle partait soigner le petit.
Une fois seule, Croiserelle se prit à réfléchir sur cette étrange déposition. Madame Gilbert avait-elle dit la vérité, ou bien, pour une raison encore obscure, voulait-elle égarer les recherches ? De sa déclaration, il ressortait que Favrin n'avait rien ignoré du départ de sa femme. En conséquence, comment se faisait-il qu'il avait commencé par affirmer que Marie-Louise, profitant de son absence, s'était enfuie du domicile conjugal ? Comment se faisait-il que le cadavre, une fois découvert, il se fût borné pour se défendre, à manifester de l'étonnement ? Cependant qu'il lui était si simple de se justifier en invoquant le témoignage de la mercière. Pourquoi avait-il, au contraire, tenu à ce que le corps trouvé dans son jardin passât pour celui de sa femme ? Qui pouvait être la victime pour que le souci d'en cacher l'identité l'emportât sur celui de prouver son innocence ? Tout cela était bien complexe. Favrin avait-il assassiné sa maîtresse ? Espérait-il, en se défendant de l'accusation portée contre lui, laisser la police se perdre sur une fausse piste ? Pourtant, en supposant qu'il avait eu une maîtresse, il était bien invraisemblable qu'il eût reçu chez lui, en présence de sa femme et de son fils. Comment expliquer encore que Madame Favrin fût partie, chargée d'un incommode paquet, alors qu'il était si naturel qu'elle utilisât la valise portant ses initiales ? Et cette dépêche de Vichy et du Centre sur le seul rayon vide de l'armoire. D'où provenait ce journal ? À ce moment, le commissaire tira machinalement de sa poche le petit morceau d'ébène qu'il avait si fortement intrigué dans la matinée.
« Je comprends, » murmura-t-il. Il venait de lui apparaître que cette pièce de bois pouvait être l'extrémité d'un archer.
Sans doute, pensa-t-il, le rayon vide de l'armoire était occupé par le linge de corps de la disparue. Il fallait un prétexte à cette dernière pour conserver près d'elle, à l'insu de son mari,
l'image d'un homme qu'elle aimait peut-être. Il lui était doux de songer que ses chemises, que ses combinaisons, voisinaient si intimement avec le portrait d'un musicien. Le commissaire ne put réprimer un sourire. La hardiesse de ses déductions lui parut malgré tout un peu trop grande. De la découverte d'un journal, en première page duquel figure la photographie d'un orchestre et d'un morceau d'ébène apparaissant comme l'extrémité d'un archer, parvenir à conclure que Madame Favrin était la maîtresse d'un violoniste, c'était évidemment un peu téméraire. Pourtant, un véritable policier qu'il était, Croiserelle n'était pas fâché de ce résultat. Il aimait à reconstituer, avec une feuille de papier à cigarette, avec un objet insignifiant, tout le mystère d'un drame. Et rien ne lui causait une satisfaction plus grande que d'être amené, par le jeu des déductions, à découvrir un coupable, alors qu'il n'y avait au départ, pour toute présomption, qu'un peu de fil, qu'un peu de cendre. Madame Favrin était la maîtresse d'un violoniste, murmura-t-il avec ce contentement que donne l'affirmation d'une vérité. Si cet amant est violoniste, il est probable qu'elle l'a connu au cours d'un séjour dans une ville d'eau, à Vichy par exemple. Or, il est à présumer qu'un tel séjour n'a pu être effectué qu'en compagnie de ses maîtres, alors qu'elle était encore femme de chambre. La déclaration de Madame Gilbert n'avait pas été seule à lui faire douter de l'identité du cadavre. La toque de chez Catherine Leboux avait également éveillé ses soupçons. Peut-être en apprenant qui en avait été le possesseur, ferait-il faire à l'enquête un grand pas en avant.